intéressant, que Snowden a lui-même beaucoup commenté. Voilà. Et on a souvent la voix du FIMA et la voix des personnes autour qui sont des clés de lecture. Les mouvements de caméra sont dictés par les mouvements du corps, en fait, directement. On a des courses, des panoramiques pour suivre le danger, des chutes parfois, des corps. Et donc, j'emprunte pour étudier ces images le terme body image utilisé par la chercheuse Ulrike Lunriboni. C'est une forme contractée des mots anglais body et images qui désigne des images corps où le trembler s'apparente à une palpitation. Pour la chercheuse, ces plans impliquent l'impossibilité, je cite, d'oublier que quelqu'un est là et tient l'appareil. Si un plan tremble, c'est un corps qui tremble. Si l'appareil semble tomber, c'est un corps qui s'écroule. Donc ces images invitent à un visionnage organique où les sens sont activement mobilisés. Peter Snowden lui-même nomme leur fonction haptique, donc un terme qu'il emprunte à Laura Marx. Donc c'est pour ça que ces images me semblent en particulier invitées à une temporalité où on est soi-même spectateur, spectatrice des images avant que d'être chercheur, chercheuse ou éventuellement artiste. Donc créer en spectatrice, c'est aussi pour moi, lorsque je vais créer à partir des images avec ces particularités-là, essayer de me poser la question du public. Comme ce sont des images qui me sont familières avec toutes celles que je vois, de savoir qu'est-ce qu'elles peuvent provoquer, éventuellement des sensations peut-être de malaise lorsque c'est sur grand écran, etc. Et cette fameuse sentiment d'authenticité, ce fameux sentiment d'authenticité. Donc, dans un deuxième temps, la seconde temporalité, c'est celle de l'analyse d'un corpus de film, donc qui conjugue différentes approches méthodologiques qui reflètent le caractère fondamentalement pluridisciplinaire en fait, des études cinématographiques et audiovisuelles. Et donc, la recherche s'appuie sur des analyses de séquences grâce à la méthodologie spécifique des études de cinéma. Mais cette méthode de l'analyse filmique est particulièrement intéressante à appliquer à des images en mouvement qui ne sont pas directement cinématographiques, comme peuvent l'être les images issues d'Internet et plans amateurs. Ça permet de s'attarder sur des caractéristiques formelles avec un langage, avec une grammaire spécifique, là où ces matériaux sont souvent utilisés ou mobilisés en vertu de leur unique contenu, notamment dans le domaine du journalisme, par exemple. Donc, mon sujet invite aussi à mobiliser des sources académiques variées. Donc, voilà, ça peut être la philosophie, les sciences politiques, l'anthropologie, les sciences de l'information et de la communication, mais aussi toute une littérature qui s'attelle à penser ce qui est souvent nommé les nouveaux médias. Donc, je croise ces approches académiques avec une approche génétique. L'approche génétique, c'est-à-dire l'approche qui cherche à prendre en compte un film, non seulement comme un objet fini, clos, mais aussi comme un processus, donc pour faire écho à ce qu'on a entendu aussi tout à l'heure, et donc à retracer les étapes de sa fabrication. Donc, pour ce faire, je vais mener, par exemple, des entretiens avec des cinéastes, des producteurs, productrices, chercher des informations sur les tournages, les financements, etc. Et donc, cette enquête, en fait, renvoie à la temporalité de mon propre processus de création et permet éventuellement d'avoir une approche comparative, soit entre mon approche et celle que j'ai faite, ou entre les approches des différents films de mon corpus en eux-mêmes. Donc, je vais vous montrer aussi un deuxième court exemple. Donc, d'un film qui fait partie de ce deuxième volet que j'appelle de délégation de la caméra, donc qui ne sont pas des images trouvées sur Internet, mais commandées en quelque sorte par les documentaristes. Donc, c'est le film Les Sauteurs, qui est co-signé par trois auteurs, deux réalisateurs danois, Stefan Wagner et Maurice Thiebert, et leur personnage, Aboubakar Sidibé. Ce dernier, c'est un jeune homme originaire du Mali que les réalisateurs ont rencontré alors qu'il était bloqué en fait, à Melilla, en tentant ponctuellement d'entrer en Europe en franchissant un grand mur, parce qu'il avait son titre au film. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai essayé de faire attention à mes premières émotions en voyant ce film, donc, qui était une forte empathie pour le personnage, liée selon moi à la subjectivité du point de vue, et liée aussi à une situation politique dans laquelle une personne est en difficulté, en situation d'oppression. Et puis, dans un second temps, j'ai confronté ce film à la méthode de l'analyse filmique. L'auteur revient souvent avec ce zoom caractéristique amateur dans des qui documentent des situations justement de corps en difficulté, soit situation de guerre, politique ou de risque. avec les sous-titres. Pardon, je suis pas à l'aise avec le pen. Voilà. Donc, juste avant, on a entendu le film de ça, il faut que les gens voient, donc c'est une interruption. J'ai vu aussi dans les vidéos amateurs, justement, des événements. Qui s'adresse en fait à un public non défini, que les témoins espèrent large, et une revendication en fait, un espoir que ces images servent de preuve. Donc, soit considérées comme authentiques, véridiques et pour des situations qui est peu souvent documentées. Donc, voilà, on a aussi ces uniformes de la police qui montrent des corps de l'ombre qui ne sont pas identifiables, contrairement à des corps filmés de près, et notamment celui du film. Donc, on a vraiment une distinction entre deux types de corps, entre nous et eux, qui sont là, voilà, la police marocaine qui les poursuit. Et donc voilà, vous voyez bien les caractéristiques formelles, on a le corps qui apparaît souvent à cette course, et cette sensation de se.
Allez-y.
Il y a le son, évidemment, là on n'entend pas très bien, mais il met aussi au premier plan la subjectivité du corps. On entend les pas, le souffle et la voix du filmeur, avec voilà, un mixage son qui fait avec le matériau. Je vais un peu passer pour aller plus à la suite. Donc pour étudier ce film, j'ai aussi essayé de me demander, j'ai formulé des questions qui deviennent au fil de ma recherche un protocole lorsque je découvre un film et que je l'analyse, qui a trait à ce que je vais essayer de chercher ensuite dans mon enquête. Donc quel semble être l'objectif poursuivi par les filmeurs qui font ces images en participant à ce projet? Quels seraient les objectifs des cinéastes impliqués? Est-ce que ces objectifs sont concordants? Je m'interroge sur le gain pour l'une et l'autre partie. Je me demande quels éléments de mise en scène permettent de situer le point de vue des cinéastes. Voilà, j'ai toute une série de questions que je vais essayer d'aller plus vite. Et donc, j'essaie de trouver des réponses, notamment dans des entretiens. Donc là, j'avais prévu un petit extrait audio, mais j'ai traduit en fait un morceau de cet entretien donc avec Stéphane Wagner, un des réalisateurs, qui a tenu à me dire dans l'entretien, nous sommes trois réalisateurs. Au départ, on avait prévu en fait de créditer le personnage filmeur comme co-réalisateur, et finalement, nous nous sommes dit qu'il avait fait des choix cinématographiques et qu'il méritait donc d'être crédité comme réalisateur, et que ça leur a pris du temps de faire ce choix, et que ça a aussi eu une implication du point de vue de la production juridique, donc il fallait re-signer les contrats et évidemment partager en partie égale l'argent éventuellement généré par le film qui a eu d'ailleurs beaucoup de prix. Donc cette question de l'autorialité, elle m'intéresse, et l'hypothèse que je formule avec ces enquêtes, puisque tous les films ne sont pas co-signés par les personnages filmeurs, c'est que en fait il ne suffit pas d'avoir les noms génériques pour que l'autorialité soit où l'autorité soit équitablement partagée. C'est pour ça que j'ai intitulé ma thèse « Partage de la mise en scène », puisqu'un partage n'est pas forcément équitable. Voilà. Donc j'interroge cette question d'équité. Je vais passer maintenant à parler un peu de la partie créative de ma thèse. Donc j'ai deux projets qui ne sont pas des œuvres de remploi d'images, donc plutôt la deuxième partie catégorie de films, donc de délégation de la caméra, qui sont des films qui vont être filmés par leurs personnages. Donc, il y a même deux phases, j'ai deux approches, j'ai deux projets. Le premier, aujourd'hui, je l'écris, enfin, je suis réalisatrice moi-même. Et le deuxième, c'est une coécriture avec un autre réalisateur et avec le personnage qui s'appelle Liu Chengzhang. Et donc, il y a une fiction documentée, c'est-à-dire qu'on a écrit un scénario à partir de la vie de ce personnage, et le film sera composé des enregistrements d'écran de son smartphone. Donc, pour que ce soit un peu plus clair, je vais vous montrer deux petits extraits, mais je n'ai pas avoir le temps de les montrer en entier. Donc ça, c'est un extrait de mon projet qui est en fait une correspondance numérique entre des adolescentes en France et en Tunisie, donc, qui m'envoient et s'envoient des vidéos pour documenter leur quotidien. Et donc,
j'ai
sur le tournage. Ce sont des images qui s'inspirent en fait aussi de leur propre pratique des réseaux sociaux. Donc là, c'est un peu un trope des réseaux sociaux, c'est peut-être, qui est le room tour. Et donc, le fait de montrer sa chambre et de commenter. Et j'essaye de faire avec le montage un peu des parallèles entre ce qu'elle envoie. Bon, le son est vraiment fait.
أكثر بلاصة أحبها في البيت. Ensuite, un coin que j'adore dans ma chambre, c'est celui-là. Donc, c'est entre ma fenêtre, en fait.
Du coup, je vais pas pouvoir vous montrer à tout l'extrait. Et pour le deuxième projet, là, on se base uniquement sur l'utilisation de ce personnage. Qui habite justement à Grenoble, qui étudie à Grenoble, donc cette université, et qui, lui, en fait, a une pratique très active des réseaux sociaux. Donc, il fait des TikTok, il vend de la nourriture chinoise sur Instagram, et il cherche l'homme de sa vie sur Tinder, et donc c'est un peu le motif narratif de notre travail. Donc, juste pour vous montrer un tout petit morceau.
Première semaine en France. Bonjour. Moi, parler pas français, non, pas français.
C'est le son de l'ordinateur.
Bonjour, comment allez-vous?
Oui, en fait, il n'y a pas de. Ok, du coup, il n'y a pas de son. Ça... Ah, d'accord, ouais. Bah, je ne vais pas vous montrer tant pis. Donc, voilà, je conclue en plus parce que ça a pris beaucoup de temps. Donc voilà, je dirais que cette temporalité que j'ai séparée ici un peu par simplicité se mélange parfois, emprunte les unes aux autres, mais avec quand même la nuance que le temps de la création, et peut-être on aura l'occasion d'en parler pendant ces deux jours, et notamment de l'industrie qui implique de trouver des partenaires professionnels, institutionnels, et parfois un peu en décalage avec la temporalité universitaire. Donc c'est des choses qui un peu se mélangent. Mais voilà, c'est un caractère parfois vertigineux qui m'apparaît comme une force aussi, puisque je pense que ce qui est un peu m'anime, c'est d'essayer de produire aussi des textes du point de vue des praticiens et des praticiennes pour ensuite renouveler les sources écrites qui seront convoquées pour les prochaines recherches dans nos disciplines.